France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Audrey Guélil, Alexandre Billard et Olivier Dehay. Voici la troisième émission de notre série consacrée à Arturo Benedetti Michelangeli, né il y a 100 ans, le 5 janvier 1920 à Brescia, dans l'Italie du Nord. Et nous écoutons à chaque début d'émission le pianiste dans une miniature baroque italienne, comme cet Allegro de Pellegrino Tomeoni, maître de chapelle de sa ville de Lucca, en Toscane, au XVIIIe siècle. C'est le 22 janvier 1943 qu'Arturo Benedetti Michelangeli avait enregistré cet Allegro de Pellegrino Tomeoni. Au sujet de Michelangeli, eh bien, nous avons sur Internet une feuille chronologique et biographique tout à fait intéressante signée de Marco Vitale et Lydia Kozubek qui s'intitule « La perfection devient musique ». Qui est une biographie qui est hébergée par une banque suisse d'ailleurs, la BPS. Et on peut y lire notamment les activités de Michelangeli pendant la Seconde Guerre mondiale. Je cite fin janvier 1942, en plein conflit mondial, il est enrôlé dans la 3e compagnie de santé à Baggio, à Milan. Les événements aventureux de la période belliqueuse sont peu connus et leur reconstruction incertaine est confiée au témoignage écrit de quelques personnes très proches de lui. Après le 8 septembre 1943, pour fuir au ratissage des Allemands puis à l'obligation de présentation demandée par le gouvernement de la République de Salo, Michelangeli se réfugie à Borgonato, dit Cortefranca, en Franciacorta, hôte du château de la famille Berlucchi. C'est là qu'il épousera Giuliana Guidetti le 20 septembre en l'église San Vitale. Ils se sépareront légalement par un acte du tribunal de Brescia en 1970. Au cours des mois suivants, il se trouve à Sale Marasino avec sa femme dans la villa donnant sur le lac d'Iseo, propriété de la famille Martinengo. Il y restera jusqu'au novembre 1944 lorsqu'il sera contraint d'évacuer suite à un un bombardement qui touche l'édifice et endommage d'ailleurs le premier grand queue qu'il s'était offert avec les recettes de ses premiers concerts. Nous viendrons un peu plus tard sur ce récit de Michelangeli pendant la guerre. Je vous propose de le retrouver, comme nous le faisons chaque jour de cette semaine, autour d'un concerto de Mozart, en l'occurrence ici le Köchel 503 en Do majeur, le 25e concerto de Mozart que Michelangeli a enregistré en 1989 avec l'orchestre symphonique de la radio NDR de Hambourg, dirigé par Cord Garben.
Thank you.
1989, Arturo Benedetti Michelangeli interprétait le 25e concerto pour piano de Mozart, le Köchel 503 en do majeur, accompagné par l'orchestre symphonique de la NDR de Hambourg, dirigé par Cort Garben. Cort Garben, qui est un pianiste professionnel, qui a accompagné de nombreux chanteurs et qui s'est fait ici chef d'orchestre à la demande de Michelangeli. On avait proposé à Michelangeli plusieurs chefs d'orchestre et c'est lui qu'il voulait, celui qui a été son collaborateur pendant 17 ans. Un documentaire récemment diffusé sur Arte et qu'on peut revoir sur le site internet témoigne de cette forte relation entre Cort Garben et Michelangeli, qu'il surnomme ABM comme beaucoup d'entre eux, et il témoigne, Cort Garben, sur cette relation difficile, une relation interrompue au bout de 17 ans, du jour au lendemain, sans véritable explication, mais quand même des souvenirs émus. Je cite Cort Garben, dans ce dernier mouvement du Köchel 503, en ut majeur, on entend pendant quelques secondes un motif chantant que la plupart des pianistes escamotent. C'était l'endroit favori de Michelangeli, qui semblait penser tout le mouvement avec ce passage dans le viseur. Un après-midi, alors qu'il travaillait seul les cadences, c'est sorti comme dans une explosion. Il s'est soudain mis à jouer le passage avec une telle ferveur, en chantant fortement à bouche fermée, que je n'ai pu m'empêcher d'être profondément ému en l'observant en cachette. Le styliste, soi-disant si froid, laissait libre cours à ses émotions. Il se croyait seul sur scène avec ses deux pianos de concert et Mozart. Sa trouvaille, un petit écho laissé sans indication par le compositeur, l'avait emporté dans ces sphères où les émotions prennent forme, mais où il n'y a pas de place pour le sentimentalisme. Le grand art naît lorsqu'un interprète réussit en concert à donner, avec discipline et goût, une validité objective aux œuvres, autant à leur passage dramatique qu'à leur belle page. Arturo Benedetti Michelangeli en était capable.
Thank you.
7 août 1965 au Mozarteum de Salzbourg, Arturo Benedetti Michelangeli jouait l'une de ses sonates préférées, cette troisième sonate de l'opus 2 de Ludwig van Beethoven, dont nous écoutons chaque jour une version différente du final. Lundi, nous avions écouté une version enregistrée pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie. Hier, une version de Varsovie en 1955. Mais 10 ans plus tard, Arturo Benedetti Michelangeli reprenait cette sonate en do majeur de Ludwig van Beethoven.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Tout à l'heure, j'ai évoqué la vie tumultueuse de Michelangeli pendant la Seconde Guerre mondiale à travers ce texte qu'on peut lire sur Internet et qui est un long texte très documenté sur la vie et sur l'œuvre, sur le parcours de Michelangeli, notamment en 1943 où il se réfugie à Borgonato di Cortefranca jusqu'en novembre 44 lorsque, je cite, il sera contraint d'évacuer suite à un bombardement qui touche l'édifice et endommage le premier piano grand queue qu'il s'était offert avec les recettes de ses premiers concerts. Il se rend donc à Gussago dans une maison des Tony où il est retrouvé et arrêté par les fascistes, puis emprisonné à la prison de Marrone, toujours au bord du lac d'Iseo, dans le quartier général des SS. Quelques jours plus tard, grâce à l'intervention du chef de la province de Brescia, Innocente Dugnani, il est transféré dans le chef-lieu. Il y restera quelque temps caché dans le grenier de l'hôtel Victoria. Malgré l'appel aux armes et la guerre, avec ses péripéties et vicissitudes tragiques, Benedetti Michelangeli peut continuer une activité de concert limitée grâce à l'appui de la future reine, la princesse Maria José, fille de la reine Elisabeth de Belgique, qui avait apprécié son talent à l'époque du concours de Bruxelles. Il joue à l'Académie de Sainte-Cécile à Rome, à la Scala de Milan, au Mai Florentin, et donne des concerts dans différentes villes d'Italie et de Suisse. Il débute à Barcelone en 40 et il joue à Berlin en 1943. Il commence également à cette époque à enregistrer des disques. En 41, son premier 78 tours sort pour La Voce del Padrone. Il poursuivra l'activité discographique avec His Master's Voice et Telefunken jusqu'à la fin des années 50, fin de citation. Mais justement, c'est au cours des années 50 que Michelangeli enregistre l'un des plus beaux carnavals de Schumann qui soit. Partition que nous écoutons intégralement cette semaine avec maintenant Papillon, H-Cha, Carina et Chopin. H-Cha, c'est la ville de H, qui est la ville natale de sa fiancée de l'époque, Ernestine von Fricke, et qui correspond aux lettres A-S-C-H, S-C-H-A, des lettres qui forment un rébus musical, qui forme également le nom Schumann. Le mouvement de Carina correspond à Clara Schumann, et puis Chopin, c'est un des plus beaux hommages qui soit au compositeur polonais.
Thank you.
Chopin, c'est le titre de la 12e pièce du Carnaval opus 9 de Robert Schumann, ainsi enregistrée en mars 1957 par Arturo Benedetti Michelangeli, un pianiste que nous retrouvons justement maintenant dans la musique de Chopin, celle qu'il avait enregistrée au début des années 70 pour Deutsche Grammophon comme ses deux mazurkas.
Thank you.
Deux mazurkas de Frédéric Chopin par Arturo Benedetti Michelangeli au début des années 70 pour Deutsche Grammophon. La mazurka numéro 20 en ré bémol majeur, opus 30 numéro 3, et à l'instant la 25e mazurka en si mineur, l'opus 33 numéro 4. Voici ce qu'écrivait une pianiste polonaise qui a été pendant 5 ans élève de Michelangeli, Lydia Kozubek. Chez Michelangeli, le soin apporté au beau son, le toucher chantant, la variété d'articulation et l'accent posé sur les formes d'une volonté créative au cours de l'étude du pianiste, tout cela nous rappelle Chopin. La méthode d'enseignement de Michelangeli, si nous voulons la définir de cette manière, se distinguait donc des autres au niveau de la profondeur d'introspection dans les contenus musicaux, un facteur qui déterminait donc le choix de la forme adaptée à la transmission de la musique. L'artiste ne séparait pas l'art pianistique en technique et interprétation, car elles formaient une unité indissoluble. Elles étaient des moyens conduisant à l'objectif, servant à l'expression musicale. Et bien tout cela maintenant au service de la musique de Johannes Brahms, dont voici la deuxième ballade, opus 10.
Thank you.
Arturo Benedetti Michelangeli dans la deuxième ballade opus 10 de Johannes Brahms, partition en ré majeur.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Arturo Benedetti Michelangeli était un personnage difficile, on l'a souvent dit et répété, avec des annulations de concerts, avec des refus d'enregistrement, avec des demandes de destruction d'archives. Heureusement, il reste des archives de radio, comme celle de la BBC, qui témoignent de l'art de Michelangeli à travers les âges, que ce soit en 1982, lorsqu'il donnait un concert au Royal Festival Hall de Londres avec le premier cahier de prélude de Debussy, ou en 65, dans ce même lieu, le 17 juin, où il interprétait le concerto pour piano de Grieg, l'opus 16 en la mineur, ce qui nous permet de retrouver un Michelangeli concertiste aux côtés ici de l'orchestre New Philharmonia, dirigé par Raphaël Frubeck de Burgos. Ovation pour Arturo Benedetti Michelangeli en 1965 par les spectateurs de Londres avec l'orchestre New Philharmonia dirigé par Raphaël Frubeck de Burgos dans le concerto en la mineur l'opus 16 d'Edvard Grieg dont nous écoutions le final Allegro Marcato. Un enregistrement commenté par le pianiste et musicologue Jeremy Sipman qui a longtemps été producteur à la BBC. Arturo Benedetti Michelangeli fut incontestablement l'un des magiciens du piano les plus accomplis et les plus mystérieux du XXe siècle. Ce mystère, il l'avait lui-même fabriqué dans une large mesure. Il menait une vie de reclus, s'entourant d'une aura presque surnaturelle et prétendant entre autres descendre de François d'Assise. Au cours de sa longue et mythique carrière, il a sans doute annulé autant de concerts qu'il en a donné et son répertoire public était parmi les plus restreints de l'histoire du piano. En privé, il jouait et étudiait en revanche un vaste répertoire qui s'étendait de Bach à Scarlatti, à Ravel et Federico Mompou. Et il était aussi un violoniste accompli, ce que j'ai appris du grand violoniste italien Salvatore Accardo. On l'a dit que Michelangeli n'a jamais fait une fausse note de sa vie. Même les critiques les plus sévères reconnaissaient qu'on ne pouvait imaginer une technique plus parfaite que la sienne et que sa maîtrise de la sonorité était exceptionnelle. Malgré tout, les auditeurs attentifs discerneront peut-être dans le présent enregistrement du concerto de Grieg ce qui pourrait presque passer pour une fausse note dans la figure initiale du piano où l'un des doigts semble glisser entre deux touches, si bien qu'on a la pression d'une petite bavure passagère, mais il n'a jamais commis d'inexactitude plus grave que celle-ci en public, du moins pas à ma connaissance. Si sa technique était d'une assurance presque surnaturelle, musicalement, il se montrait étonnamment imprévisible, donnant parfois l'impression d'être une espèce de métronome humain et d'autres moments foulant les sommets avec une poésie et un sens du drame extraordinaire. Thank you. Une partition d'Edvard Grieg qui répondait au concerto, c'était une des pièces lyriques de Edvard Grieg, l'opus 68, numéro 5, au berceau. Voici ce qu'écrit notre ami Philippe Cassard, que vous pouvez suivre tous les samedis à 14h sur France Musique, dans un livre consacré à Claude Debussy. Voilà probablement le chapitre le plus difficile à écrire de ce petit livre. Car mes plus grandes émotions de bussiste, ce sont moins les disques qui me les ont donnés que les concerts. J'ai des souvenirs de récitals hypnotiques d'Arturo Benedetti Michelangeli à Vienne en 1984 dans le deuxième livre des préludes, mais également de Radulupu de Christian Zimmermann dans les deux livres de préludes. Curieusement, Michelangeli, si émouvant ou si mouvant et fluide au concert, me paraît figé, glacial et désincarné au disque chez Deutsche Grammophon. Où sont ces pianissimi impalpables et ces couleurs irisées qui nous faisaient chavirer pendant ces récitals? Eh bien, cher Philippe, cherchons-les encore une fois, ces pianissimi impalpables, et dégustons un extrait du premier livre des préludes avec, en 1978 à Hambourg, Arturo Benedetti Michelangeli interprète tour à tour de la sérénade interrompue, la cathédrale engloutie et la danse de Puck. Thank you. trois préludes du premier livre de Claude Debussy, La Sérénade interrompue, La cathédrale engloutie et à l'instant La danse de Puck. C'était en 1978 à Hambourg pour Deutsche Grammophon, Arturo Benedetti Michelangeli.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et suivant la même structure, chaque jour de cette semaine, Michelangeli, après Debussy, voici Maurice Ravel. Nous avions écouté deux extraits du concerto en sol enregistré à plusieurs reprises par ABM. Et bien justement, ABM, c'est le titre d'une série de disques paru chez Praga, avec plusieurs séries de disques, ABM 1, ABM 2, ABM 3. Et dans ce ABM 1, on peut entendre un extrait de récital de Michelangeli à Prague le 22 mai 1960 avec Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel. Merveilleux chef-d'œuvre en trois parties composé en 1908 d'après des poèmes d'Aloysius Bertrand. Voici la première de ces pièces, Ondine.
Thank you.
Ondine de Maurice Ravel, la première pièce de Gaspard de la Nuit, interprétée le 22 mai 1960 à Prague par Arturo Benedetti Michelangeli. Nous arrivons bientôt au terme de cette troisième émission à retrouver sur francemusique.fr et nous allons revenir aux origines, aux tout premiers enregistrements d'Arturo Benedetti Michelangeli qui, à l'âge de 19 ans, en 1939, remporte, je vous le rappelle, le concours international de Genève. Il reçoit son prix des mains d'Alfred Cortot qui voit en lui un nouveau Franz Liszt. Une photo en témoigne. D'ailleurs, Bruno Rigouteau, qui a côtoyé Michelangeli, se souvient qu'à la question « Quel est votre pianiste préféré ?», il disait « Alfred Cortot ». Donc, admiration pour cette autre légende du piano. Eh bien, en 1939, Arturo Benedetti Michelangeli profite de son passage en Suisse pour commander à un compositeur suisse, un certain André-François Marescotti, une partition intitulée « Fantasque » et que voici interprétée par ABM. Thank you. C'est bien Arturo Benedetti Michelangeli qui jouait en 1941 ce fantasque d'André François Marescotti. Mais je vous dis une petite bêtise, ce n'est pas lui qui l'a commandé. C'était une partition qui était imposée au concours de Genève qui était en 1939. Voilà. Voilà un qui n'y dit jamais de bêtises, c'est Lionel Esparza. Bonjour Lionel.
Je dis à chaque fois, mais enfin vous les repérez pas, mais croyez-moi, il y en a des kilos.
Non, enfin bref.
Dites-moi, demain c'est la quatrième pour Arturo.
Absolument.
Et qu'est-ce que j'ai vu, vous avez parlé de Bach?
Oui, on va parler de Jean-Sébastien Bach qui était bien sûr un compagnon de chambre de Michelangeli, mais qu'il jouait très peu au concert. Et il y a notamment la chaconne que les pianistes ont volée au violoniste. Mais la chaconne de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Arturo Benedetti Michelangeli, c'est un grand moment, je vous l'assure.
Eh bien, rendez-vous demain. Merci François-Xavier.
À réécouter sur francemusique.fr.